Métro, boulot, gynéco.
Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne podcast de la GOF. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le docteur Mérès, chirurgien plasticien au CHU et à l'Institut universitaire du cancer Oncopole de Toulouse. Une grande partie de son activité est dédiée à la chirurgie du sein, et c'est dans ce contexte que nous l'accueillons pour discuter des anomalies du développement mammaire à l'adolescence avec Océane pour le micro des gynécos.
Bonjour docteur Mérès, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur le micro des gynécos pour discuter aujourd'hui des anomalies du développement mammaire chez l'adolescente.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, si vous êtes d'accord, je me suis dit qu'on pourrait commencer par quelques mots d'introduction sur l'épidémiologie, c'est-à-dire quels sont les différents types d'anomalies que l'on peut rencontrer et leur prévalence.
En introduction, on peut déjà expliquer que l'adolescence, normalement, c'est la période du développement de la glande mammaire. Donc, ce développement, il peut être harmonieux ou non, et parfois, on peut même avoir une absence de développement. Dans certains cas, on va avoir des anomalies de développement, et ces anomalies, elles vont être plus ou moins sévères. Donc, les anomalies qu'on peut avoir, elles sont assez difficiles à appréhender en termes de prévalence, puisque on ne voit que les patientes qui viennent consulter. On n'a pas de chiffres précis, tant dans la littérature que quand on regarde les organismes d'assurance maladie, et quand on regarde aussi les codes qui sont pratiqués pour coder ces interventions via les actes CCAM, en fait, il n'y a pas de distinguo entre des chirurgies qu'on ferait chez les adolescentes ou chez les adultes. Et on a en plus une partie de ces patientes qui viennent consulter alors qu'elles sont déjà adultes. Voilà un petit peu la problématique.
Ah oui, d'accord, je comprends la problématique. Donc, on a des anomalies de type défaut de développement, vous avez dit, et puis aussi de surdéveloppement, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les anomalies principales qu'on peut rencontrer?
Alors, c'est exactement ça, hein. Globalement, on va avoir des anomalies de la forme du sein, des anomalies de volume, des anomalies de la symétrie, et puis on peut avoir aussi des anomalies de nombre. Parfois, on a même des glandes mammaires accessoires qui peuvent se développer. On peut avoir des anomalies de la paroi thoracique et on peut avoir des anomalies de la plaque aréolo-mamelonnaire, c'est-à-dire donc de l'aréole et du mamelon. Et toutes ces anomalies, après, peuvent s'associer. Voilà. Donc ensuite, l'anomalie la plus fréquente que nous, on va rencontrer, c'est l'hypertrophie mammaire. On pourra éventuellement revenir dessus ultérieurement. Il faut savoir... Pour vous donner une idée, moi, dans ma pratique, j'en fais quand même beaucoup, j'en opère à peu près une par semaine. Les autres anomalies d'asymétrie mammaire, de problèmes de forme ou de volume, c'est quelques-unes par an.
D'accord, donc vraiment une plus grosse représentation de l'hypertrophie mammaire. Comment on définit l'hypertrophie mammaire? À partir de quand on parle d'hypertrophie? C'est sur les symptômes, sur la gêne de la patiente ou sur un volume vraiment?
Alors, l'hypertrophie mammaire, elle est définie comme une poitrine qui est trop volumineuse par rapport à la morphologie. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fonction des époques, quand on regarde les époques plus antiques ou vers la Renaissance, finalement, avoir une forte poitrine, c'était quasiment ce que recherchaient les gens. Actuellement, on est plutôt sur des poitrines plus modérées, on va dire, dans les critères de beauté. Mais là, l'hypertrophie mammaire, on va dire que c'est pas une problématique uniquement morphologique et de critères de beauté, c'est à partir du moment où il va y avoir un retentissement. Donc le retentissement, il va être à la fois physique, donc des dorsalgies, des douleurs cervicales, et on estime que pour pouvoir avoir un retentissement, il faut qu'on ait une poitrine relativement forte. Donc, c'est généralement à corréler, bien sûr, avec la taille des patients. Et c'est là où la Sécurité sociale a placé une barre, en gros, pour pouvoir être pris en charge au titre d'une réduction mammaire. Dans le cas d'une hypertrophie mammaire, il faut pouvoir enlever plus de 300 grammes par sein, ce qui correspond à la taille à peu près d'un bonnet baissé, c'est-à-dire que les patients qu'on va opérer, on va enlever au moins deux tailles de bonnet pour considérer qu'on va avoir un service qui n'est pas uniquement de la chirurgie esthétique.
Donc, en dessous de cette limite, la patiente peut être très gênée, ce serait pas pris en charge, c'est ça, hein?
Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que la gêne, elle n'est pas purement physique. Hein, et la sécurité sociale, quand elle prend en charge, notamment en chirurgie plastique, des interventions, c'est souvent vraiment pour la problématique qui est plutôt physique et pas forcément psychologique, bien que pour la poitrine, il y ait quand même des variations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces patientes, elles vont avoir un grand retentissement qui va être aussi un retentissement psychologique, un retentissement psychosocial et également un retentissement sur l'habillage. C'est-à-dire que ces patientes, elles vont avoir du mal à trouver des soutiens-gorges dans les grandes tailles. Quand elles sont minces, bah, elles vont pas pouvoir acheter le soutien-gorge et la culotte, que ce soit des sous-vêtements ou des maillots de bain, dans les mêmes tailles. Elles peuvent être victimes de harcèlement, de moqueries à l'école. Leur vie personnelle, leur vie sportive, leur vie intime peut être vraiment impactée. Et donc ça va être à l'origine de complexes importants. Et tout ça, bah, le fait de les prendre en charge, on va agir aussi là-dessus.
D'accord. Et concernant l'hypotrophie mammaire, par exemple, est-ce qu'il y a aussi une définition particulière, notamment en termes de prise en charge ou après en pratique clinique?
Alors, l'hypotrophie mammaire, c'est pareil. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que contrairement à l'hypertrophie mammaire, il n'y a pas de retentissement fonctionnel, il y a des retentissements psychologiques. Et globalement, on va définir plusieurs types d'hypotrophie. On va avoir une aplasie mammaire, c'est-à-dire des patientes qui ont quasiment plus que la plaque aralo-mamelonnaire. On peut avoir une amastie, c'est-à-dire une absence complète de sein et une absence de plaque aralo-mamelonnaire. Donc là, généralement, il n'y a pas vraiment de problème de prise en charge. Et pour l'hypoplasie, ben finalement, la sécurité sociale, pour la prise en charge, a mis une barre. C'est censé être bonnet inférieur au bonnet A, ce qui reste assez subjectif. Et si on veut le mesurer, en gros, c'est tour de poitrine moins tour de thorax avec moins de 5 cm d'écart. Voilà, donc tout ça, c'est de toute façon des choses qui sont soumises à entente préalable. Donc nous, on va voir les patientes, on va faire un dossier, on va faire des photos, on l'envoie au médecin conseil de la sécurité sociale et ensuite, on va avoir, oui ou non, une prise en charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les patientes qui ont vraiment pas du tout de poitrine, elles ont une grande chance d'être prises en charge. On considère qu'il y a un retentissement psychologique qui peut être à l'origine de troubles, de complexes chez ces patientes. Et dès qu'elles ont un petit peu de poitrine ou même une poitrine petite par rapport à leur morphologie, mais qui est déjà présente, elles ne seront pas prises en charge.
D'accord, c'est clair. Et du coup, l'hypotrophie mammaire ou la mastie, ça, c'est des anomalies beaucoup plus rares. Vous en rencontrez beaucoup moins souvent que l'hypertrophie mammaire.
Oui, on en rencontre moins souvent. Ouais.
Et en dehors de ces deux grandes catégories, vous avez parlé d'anomalies du thorax, les anomalies de forme. Du coup, j'imagine que c'est encore plus rare. Est-ce que vous pouvez juste peut-être les citer ou les décrire de manière générale?
Alors, on a des anomalies qui ne sont pas forcément une anomalie de la poitrine elle-même, mais qui vont retentir dessus. Les anomalies au niveau de la forme du thorax, donc les patientes qui ont ce qu'on appelle un pectus excavatum ou un thorax en entonnoir, ben ça va avoir tendance parfois à entraîner une asymétrie de la poitrine ou alors avoir une poitrine qui va avoir tendance à regarder vers l'intérieur.
Et cette anomalie, vous la prenez en charge comment?
Alors, le pectus excavatum, la prise en charge, en fait, elle est basée sur le fait de corriger la forme du thorax. Hein, donc, généralement, on fait une reconstruction de l'anomalie de forme du thorax pour reconstruire en fait exactement la perte de substance. Donc, ça se fait par ordinateur à partir du scanner. Et ça va permettre de fabriquer une prothèse sur mesure qui va permettre de combler la perte de substance au niveau du thorax. Et parfois, rien qu'en faisant ça, ça corrige la poitrine.
Donc, on a besoin de couper les os?
Non, justement. Il y a des techniques en fait qui sont utilisées par les chirurgiens thoraciques où justement ils coupaient les os, où ils mettaient des barres à l'intérieur du thorax pour essayer de retourner en fait les côtes de façon progressive. Ça a été, il y a encore des chirurgiens thoraciques qui le font, mais maintenant actuellement la technique, donc mon ancien chef de service professeur Chavoin à la série la plus grande mondiale avec des centaines de patients maintenant, il forme beaucoup de chirurgiens dans le monde pour cette technique, qui est justement une technique beaucoup moins invasive, puisque globalement, on va juste remplir le creux du thorax avec une prothèse faite sur mesure.
Une prothèse qui est accolée au sternum, alors par exemple, c'est ça, hein?
Voilà.
D'accord, ah oui, c'est chouette. Hein.
Ça vient remplir le creux, et si la forme de la poitrine était normale, généralement, le simple fait de reprojeter en fait, le thorax, ça donne une poitrine harmonieuse. Et parfois, quand on a une anomalie, bah, ça peut secondairement nécessiter un geste sur la poitrine, mais après avoir corrigé le thorax. Voilà.
Super.
Des choses assez rares. On a de façon encore plus rare ce qu'on appelle le syndrome de Poland. Donc, le syndrome de Poland, c'est un syndrome qui va associer des anomalies à la fois du muscle pectoral, de la main et du sein. Et on peut avoir différentes associations. Et au niveau du sein, on peut avoir une hypotrophie, voire une absence de développement complet du sein. Donc ça, c'est assez rare et ça nécessitera une prise en charge spécifique.
C'est d'origine génétique.
Alors, c'est d'origine probablement congénitale. Un problème de possiblement vasculaire lors de l'embryogenèse qui a conduit en fait à une malformation du membre supérieur de la région pectorale et du sein. On a ensuite des anomalies qu'on va trouver de façon un petit peu plus fréquente qui s'appellent les seins tubéreux. Donc les seins tubéreux, c'est des seins qui se sont développés souvent assez rapidement, qui ont tendance à mal s'étaler sur le thorax. Donc ils ont une base d'implantation qui est relativement plus étroite qu'un sein normal. Ils ont souvent des aréoles très élargies et ils ont souvent tendance à tomber directement à travers cette aréole. Donc, c'est des patientes qui sont jeunes et qui ont d'emblée une ptose mammaire, qui ont souvent des seins très asymétriques, puisqu'il y en a plusieurs types et plusieurs types de formes, avec des aréoles très larges, très protruses. Et c'est vraiment des formes de seins qui sont souvent vraiment peu esthétiques et qui sont à l'origine de complexes importants. C'est parfois des jeunes filles qui, même devant leur maman, ont du mal à se dévêtir.
Et concernant l'arsenal thérapeutique, les options de prise en charge qu'on peut proposer à ces patientes qui souffrent de malformations, d'anomalies du développement mammaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne?
Alors oui, globalement, les options, elles sont surtout chirurgicales, mais pour ces patientes, parfois en attente de la chirurgie ou si elles ne sont pas forcément décidées, ben, globalement, ça va être l'habillage qui va permettre de pallier à tout ça. Donc, c'est des soutiens-gorge adaptés, notamment pour les patientes avec des hypertrophies importantes. Ça peut être des prothèses externes quand on a une asymétrie ou des soutiens-gorge rembourrés quand on manque de volume. Mais ça, c'est vraiment du palliatif, hein. La prise en charge, elle va vraiment être chirurgicale. Et chirurgicalement, les options qu'on a, c'est des plasties mammaires, donc des plasties de réduction mammaire pour les hypertrophies mammaires. On va avoir aussi des plasties pour les ptoses mammaires. Donc là, dans le cadre d'asymétrie, par exemple, on va pouvoir mettre en place des prothèses de façon unie ou bilatérale. Tout comme les plasties de réduction mammaire, elles peuvent être bilatérales ou unilatérales. Et on a encore une dernière option qui s'appelle le lipofilling, qui consiste à prélever de la graisse sur un site donneur, à la centrifuger et ensuite à la réinjecter, donc ce qui va nous permettre d'amener du volume.
Et quand c'est l'option qui est retenue, on doit souvent y recourir plusieurs fois, non, c'est pas ça, ou pas forcément?
Pour le lipofilling, tout à fait. Il faut savoir que globalement, on a à peu près 30% du volume réinjecté qui va se résorber. Et donc, soit c'est des petites retouches qui permettent d'adoucir les contours d'une reconstruction avec une prothèse ou d'une augmentation avec une prothèse. Là, ça peut se faire en une fois. Mais pour des patientes qui auraient une asymétrie mammaire avec un sein un petit peu plus petit qu'on voudrait augmenter par cette technique, il y a souvent nécessité de faire au moins deux séances. Donc, c'est important parce que il faut le prévoir. Et à l'examen, on doit savoir si ces patientes ont un capital graisseux suffisant.
Il faut à peu près attendre combien de temps pour savoir ce qui reste et ce qui ne reste pas
Globalement, en 3 mois, on a une bonne idée. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir un poids stable, ce qui n'est pas toujours évident à la période de l'adolescence où on a des patients qui ont parfois des variations de poids à la hausse ou à la baisse. La variation à la hausse sur le lipofilling, ce n'est pas très grave, ça va augmenter le volume qui sera resté. Par contre, une patiente qui va perdre une dizaine de kilos, ça peut rendre le bénéfice de l'intervention on va dire négligeable.
Oui, je comprends. Et concernant, juste, je reviens sur, vous avez évoqué la ptose. Ça se passe comment, la chirurgie de la ptose? Est-ce qu'il y a plusieurs options?
Alors, il y a plusieurs techniques. Donc là, on va sans rentrer dans les techniques d'un point de vue purement chirurgical. Mais globalement, quand on a une ptose mammaire, on a souvent un excès de peau par rapport à la glande. Donc, le principe, ça va être d'enlever de la peau et donc ça va faire des cicatrices. On aura souvent une cicatrice autour de l'aréole et très souvent une cicatrice en encre de bateau ou qu'on appelle nous en T inversé. Parfois, on peut avoir une pseudoptose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le sein tombe et en fait, il est pas très rempli. Donc, ça peut parfois se corriger en mettant en place une prothèse et en faisant une résection cutanée qui va être un peu minorée, on va dire. Et puis après, on peut avoir des ptoses hypertrophiques. Alors, soit on est dans la réelle hypertrophie mammaire, c'est-à-dire que quand on a vraiment une forte poitrine, on a une ptose, hein, ça c'est inexorable. Et dans ce cas-là, bah, c'est la technique de réduction mammaire classique. Et puis parfois, on a des patientes qui ont juste une ptose sans hypertrophie. Et là, on va enlever un petit peu de volume et enlever un petit peu de peau pour réadapter tout ça. Et bien souvent, on a la même cicatrice autour de l'aréole et en T inversé.
Ah oui, d'accord, je comprends. Et concernant l'hypertrophie mammaire dont on parlait tout à l'heure et que vous venez d'évoquer à nouveau, la prise en charge se passe comment?
Alors, la prise en charge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces patientes-là, il faut les opérer vraiment quand elles sont gênées. On a encore trop souvent des patientes à qui on a demandé d'attendre jusqu'à 18 ans pour être opérées. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Globalement, quand les patientes elles sont arrivées à un âge physique qui correspond à un âge adulte, donc chez les filles souvent vers 13-15 ans, on peut les opérer. Ça va avoir un intérêt de les opérer tôt parce que, premièrement, bah, la peau ce sera souvent pas altérée. C'est-à-dire que si on n'a pas de vergetures et qu'on les opère, on aura un meilleur résultat. Quand les vergetures sont là parce que la peau a été cassée, on peut régler le problème de l'hypertrophie mammaire, mais on va garder ces vergetures. Et puis, ce qui est important, c'est que ces patientes, elles ont besoin d'être soulagées à 13 ans et pas à 18 ans. Hein, ces patientes, on va pas leur demander pendant 5 ans de subir encore l'inconfort quotidien d'avoir une très volumineuse poitrine. Et d'un point de vue psychologique, c'est vraiment une période de la vie qui est très particulière, l'adolescence, puisque en plus on a son corps qui se modifie, on a des interactions avec les personnes autour, que ce soit l'adulte ou les autres adolescents. Et ces patientes-là, elles sont extrêmement impactées d'un point de vue psychologique par cette forte poitrine. Et donc, plus on les opère tôt, et plus elles vont rapidement, on va dire, pouvoir passer à autre chose. Et ne pas avoir des complexes qui durent pendant des années.
Oui, bien sûr. C'est bien que les mentalités aient évolué là-dessus. Et puis, du coup, j'imagine que c'est les parents qui signent l'autorisation de prise en charge ou des choses comme ça.
Alors, à partir du moment où on a des patients mineurs, on est obligé oui. d'avoir une autorisation parentale et obligé d'avoir une autorisation parentale signée des deux parents.
Des deux, d'accord.
Ça peut être compliqué quand on a des parents qui sont séparés ou parfois des parents dont un des deux vit à l'étranger. J'ai déjà eu la situation où malheureusement ça a pris pas mal de mois avant de réunir les autorisations. Et puis parfois on peut avoir des parents qui sont pas d'accord. Il y en a un qui est pour la prise en charge et pas l'autre. Et là, pour le coup, on est embêté puisque
c'est bloquant quoi. Ouais.
C'est totalement bloquant. Mais c'est quand même les situations les plus rares. Hein. La plupart des parents voient très bien que leur enfant est très gêné et donc la plupart des parents étant bienveillants ont envie qu'on les soulage.
D'accord, merci, c'était très clair. Est-ce que, docteur Mérès, vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet avant de terminer notre épisode?
Alors, si on devait ajouter quelque chose, je pense qu'il faut vraiment inciter les gens à ne pas rester tout seuls, à consulter. C'est quelque chose qui reste assez méconnu à la fois du grand public, à la fois du milieu médical. Donc, pas hésiter à se rapprocher d'un chirurgien plasticien pour avoir un avis, une écoute et une prise en charge. On a quand même plein de solutions à proposer et parfois, on peut même ne pas proposer de solution, mais le simple fait d'avoir vu les patients, d'avoir pu leur expliquer, d'avoir pu mettre des mots sur leur développement mammaire plus ou moins harmonieux ou anormal, ça va vraiment les aider.
Merci beaucoup. On va garder ce message, donc d'être attentif à repérer ces anomalies et puis à savoir informer et adresser ses patientes. Merci pour cet épisode. C'était vraiment intéressant. En effet, comme vous l'avez dit, surtout en gynécologie obstétrique, je pense qu'on est beaucoup à pas du tout maîtriser le sujet. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre participation.
Avec plaisir.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.